RCF. En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, aujourd'hui au pied du magnifique vieux château de Montbron, un château médiéval qui a été remarquablement restauré. Et nous enregistrons cette émission au mois d'octobre. Nous allons maintenant entrer dans ce château. Et pourquoi nous sommes là? Eh bien, pour voir une exposition d'un homme assez fantastique qui s'appelle Georges Dubon et qui n'est autre que le père de Basile Dubon, qui a souvent travaillé avec moi lors de mes émissions, qui a monté sa radio, qui s'appelle La 16, à Montbron, et qui, pour les Journées du patrimoine, avait ouvert son jardin pour exposer les œuvres de Georges Dubon, qui n'est autre que son père. Mais j'ai découvert à ce moment-là, car ça fait plus de 10 ans que nous connaissons Basile, que son papa était un artiste incroyable, contemporain et d'envergure internationale. Et j'ai été évidemment très surpris en découvrant ça dans la presse. Et donc je me suis empressé d'aller le rencontrer et de voir son exposition dans son jardin. Aujourd'hui, si nous sommes au pied du vieux château de Montbron, c'est parce que l'exposition a muté, j'allais dire, dans ce bel ensemble qui offre à Roré, Georges Dubon, un magnifique écrin pour une nouvelle exposition avec beaucoup plus de petits objets qui sont mis dans des niches éclairées. Alors je vous dis tout ça, mais vous ne pourrez pas la voir, car lorsque notre émission passera, eh bien cette exposition sera terminée. Mais simplement, c'est pour mettre l'accent sur cet artiste international incroyable et sur Basile qui nous est proche. Et évidemment, Basile nous dira que peut-être un de ces jours, on va pouvoir admirer les œuvres de son papa ailleurs qu'à Montbron, et peut-être qu'une nouvelle vie pour les œuvres de son papa vont prendre forme à partir de là. Basile, bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Alors j'ai fait une introduction un peu longue pour tout resituer. Et alors moi, ce qui m'a surpris lorsque j'ai, découvert qui était votre papa, c'est, Georges Dubon se retrouve à Montbron et par vous. Comment tout ça s'est-il ficelé puisque votre papa est mexicain?
Oui, tout à fait. Il est mexicain et moi-même, je suis né au Mexique. Je suis né français, effectivement, au Mexique. Et le rapport entre mon père et la Charente, il y en a quand même un. C'est qu'il venait voir sa belle famille, ses beaux-parents, mes grands-parents, en Charente et au Perville, à Saint-Sornin.
Donc à côté de Montbron, à Saint-Sornin, un petit hameau à côté de Saint-Sornin. Et on se demande comment un Mexicain peut avoir rencontré quelqu'un qui vient voir à côté de Saint-Sornin, qui est originaire de Saint-Sornin. Alors dites-nous tout.
Alors l'histoire est simple. Ma mère est partie à la fin des années 60, en 66-67, au Mexique. Elle a rencontré mon père lors des Jeux Olympiques de Mexico 68. Parce qu'il faut savoir une chose que peu de personnes le savent, c'est que dans le cadre des Jeux Olympiques, il y a toujours des expositions culturelles. Des symposiums d'artistes qui viennent faire des sculptures, des peintures et tout ça. Et mon père en avait fait une, Route de l'Amitié à Mexico. Une sculpture qui existe toujours, qui est utilisée aussi pour les travaux de l'ETP dans les lycées, dans les collèges, dans les lycées et universités principalement. Et donc après, quand ils sont venus en France, quand ma mère l'a rapatrié en France... Mais comme il est international, il était partout dans le monde. Ça veut dire en France, aux États-Unis, au Mexique.
On le verra tout à l'heure à travers les œuvres. Donc, si je résume, là, on vient de rentrer dans le château. Vous allez fermer cette porte grillagée.
Oui, parce qu'il fait pas très chaud.
Oui, quand on enregistre. Voilà. Ça y est, on est rentré. Alors, je dois dire que c'est un écrin formidable. Ça appartient à la commune, ce vieux château de Montbron, et que c'est absolument magnifique. On rentre dans le Moyen Âge, mais comme nous sommes entourés de pierres qui ont été crépies, mais enfin, on voit les pierres et c'est un décrépit, un peu ocre, qui nous donne beaucoup de chaleur et du pavé. C'est effectivement un endroit où les expositions et toutes sortes d'expositions peuvent prendre une envergure. Enfin, c'est vraiment un très bel écrin. Donc, votre maman, elle est là, elle est à Saint-Sormin. Et alors, elle faisait quoi pour aller jusqu'à Mexico en 68?
Elle s'occupait des traductions des Jeux Olympiques de l'espagnol au français, parce que le français, c'est la langue officielle des Jeux Olympiques.
Bien sûr, merci à Pierre de Coubertin. Mais donc, et comment rencontre-t-elle votre papa? Alors, je ne veux pas m'immiscer dans la vie dans la vie privée, mais
lors des traductions, c'est-à-dire que pendant les Jeux Olympiques, les sportifs, les sculpteurs, les artistes, le personnel, le petit personnel, on va dire, se côtoient pendant pas loin de un mois et demi, deux mois, parce que ça commence avant, ça se termine après les Jeux Olympiques. Et voilà, tout simplement. Ils étaient jeunes et pleins.
Ils étaient jeunes et beaux, et alors ils avaient la vie devant eux, bien sûr, on le comprend.
Voilà,
et alors
ils se sont mariés au Mexique.
Et donc, il a appris le français.
Ah oui, mais il parlait déjà français. Il a fait ses études en Suisse. Il a fait des études un peu partout dans le monde, en Angleterre.
On va voir qu'il a une formation très, très complète et elle aussi internationale. Donc là, on a bien vu votre maman. Elle naît ici, elle fait ses études et ensuite elle part à Mexico. Et alors moi, quand j'ai découvert, donc par hasard, que c'était votre papa, parce que j'étais très jeune en 68, mais je me souviens et je me souviens exactement de cette grande sculpture jaune, immense, qui est à Mexico et qu'on voit là sur des photos, c'est-à-dire quand on rentre dans l'exposition. Et alors, si on va sur Internet et qu'on tape Georges Dubon, J-O-R-G-E-D-U-B-O-N, Georges Dubon, eh bien, on va voir toutes les œuvres de votre papa qui sont dans le monde entier, qui sont des œuvres gigantesques pour certaines, parce que votre papa travaillait le métal, travaillait le ciment et travaillait le fer. Donc, elle est en béton. C'est une œuvre, évidemment, comme toute œuvre contemporaine et non figurative, elle va inspirer chacun à sa façon. Mais je me souviens très bien de cette œuvre. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué. Et lorsque je l'ai découverte dans la presse et que j'ai vu en plus que c'était votre papa, heureusement, j'étais assis. Donc voilà. Et comment vous est venue l'idée de toutes ces œuvres, évidemment, qui sont toujours en place, que ce soit aux États-Unis, au Mexique ou dans d'autres pays. Vous avez récupéré des œuvres de votre papa depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous a donné l'idée tout à coup de les exposer? Parce que vous ne m'en aviez jamais parlé.
Alors, à son décès en 2004, parce que ça fait 20 ans maintenant qu'il est décédé, et à cette époque, on a laissé les sculptures à Chartres, parce qu'il avait son atelier à Chartres, pas loin de Chartres, et donc on a laissé les sculptures là-bas pendant 20 ans. Et moi, ça fait 10 ans que je suis en Charente, qu'on se cherchait avec mon frère à les rapatrier, à les récupérer. Et on a mis cet été, enfin, au bout de 10 ans en Charente, on a pu les rapatrier en Charente. Je me suis retrouvé avec toutes les sculptures. La première chose à faire, c'était de passer du xylophène pour celles qui étaient en bois, les nettoyer parce qu'elles avaient pris la poussière pendant longtemps. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bien, on les a transportées. J'ai un beau jardin, autant de faire une exposition. L'exposition qui a eu lieu au mois de septembre, pendant les Journées du patrimoine, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, a été un fort succès. Un article dans Charente Libre, que je remercie, et beaucoup de personnes, tout le week-end, sachant qu'il pleuvait. Et à la fin du week-end, le lundi, quand Aurélie Truffandier et Guénaël François sont venus voir l'exposition au château, comme ça, sur une simple discussion, on a dit, comme il n'y avait rien qui se passait cet automne au château de Montbron, j'ai proposé, plutôt que de les remettre dans la grange et que personne ne les voit, de les laisser au public. Parce que c'est pour ça que les sculptures de mon père étaient dans l'espace public, c'est qu'il voulait qu'elles soient accessibles à tout le monde. Pas forcément aux amateurs d'art, mais à la vue de tout le monde. Et elles étaient dans l'espace public, où on voit par exemple pour celle de Mexico, elles sont dans un parking où il y a beaucoup de personnes. À Séoul, pareil, parce qu'il a fait les Jeux Olympiques aussi de Séoul. Il a fait deux fois les Jeux Olympiques. Et ça tombait bien aussi, parce que c'était les Jeux Olympiques en France. Et faire toute cette exposition. Et à la fin de cette exposition, on a décidé de squatter, entre guillemets, le château de Montbron, parce que le lieu se prêtait bien à ce type d'exposition. Et ce qui nous a permis, ce qui m'a permis d'exposer d'autres sculptures qui n'avaient pas été mises dans le jardin parce que trop petites, ou des maquettes et des prototypes de sculptures. Et c'est comme ça qu'on est venu ici au château depuis le 4 octobre.
Très bien. Alors moi, je vais peut-être faire un petit peu comment dire, parler un peu de votre papa, Georges Dubon. Donc, il commence ses études artistiques à l'École nationale de la peinture et de la sculpture à Mexico, puis poursuit des études d'architecture à l'Université nationale en 56, et puis jusqu'en 61, il est soucieux de compléter sa formation et il étudie à l'Institut d'urbanisme de Paris. Donc, on comprend qu'il parlait le français. Participe à des biennales de sculpture de la ville de Paris jusqu'en 63 et enrichit son parcours à la SAD School of Design de Londres. Puis en 67, il est artiste invité à la School of Visual Art à New York évidemment. Alors, je n'ai pas un anglais forcément avec une prononciation incroyable. Et puis, il est boursier de la fondation Guggenheim en 64. Et il fait donc, comme vous l'avez dit, et on a les photos sous les yeux, parce que parler des œuvres de votre papa, c'est un peu compliqué, puisque il travaille, enfin, vous allez nous raconter comment il travaille, mais enfin, Georges Dubon se fait connaître en 68, c'est ce que vous disiez, aux Jeux Olympiques de Mexico. Il continue de marquer les esprits avec des œuvres monumentales en métal à Mexico en 71. De grandes sculptures en séquoia sont réalisées en 83 pour le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis, et ses œuvres pour les Jeux Olympiques de Séoul, dont vous parliez tout à l'heure, en 88, et ses sculptures autogénératrices en Andorre en 91 et celle de Madrid en 92 illustrent également sa portée internationale. En France, c'est à Clermont-Ferrand que vous pouvez également admirer une de ses œuvres monumentales. Alors, comment on pourrait dire que ces œuvres monumentales sont un peu comme des grands totems, soit en bois, soit en métal, et éventuellement en ciment. Comment est-ce que votre papa travaillait ? Et puis alors, vous, quand vous êtes arrivé, j'allais dire, dans sa vie, il en était où, votre papa, exactement ?
Ah bah, le succès commençait à arriver, surtout après Mexico 68. Moi, je suis né en 72. Effectivement, comme on peut le voir sur une photo, il pratiquait beaucoup le métal à l'époque. Et effectivement, celle de Mexico, qui était à la base destinée à être en acier, ils n'avaient pas assez d'acier, donc ils l'ont fait en béton armé, tout simplement. Et à chaque fois, toutes les sculptures, que ce soit en métal, enfin en acier on dit, qu'en bois, c'est toujours une seule et unique pièce. Ça veut dire que, par exemple, pour la sculpture qu'on a devant nous, qui sont en bois, c'est toujours un billot de bois, un tronc d'arbre, qui va découper, et un peu comme celui qui est devant nous, où c'est d'une pièce télescopique, où il va faire sortir la matière du tronc d'arbre, et de la matière, il va refaire sortir une autre matière. Et effectivement, ce n'est pas très radiophonique, il faut le voir.
Non, ce sont des poupées russes. Hein. Alors, on va dire, on prend un tronc, il est rond, mais lui, il va le découper en rectangle, et il va l'évider, et il va sortir du tronc primaire. Une, deux, trois, ça fait quatre structures en tout, qui peuvent s'emboîter comme des tables gigognes, se rentrer ou se sortir légèrement en l'air. Enfin, c'est extrêmement gracieux. Vous me disiez aussi qu'ils travaillaient à la tronçonneuse, mais pas comme on voit, même si j'admire leur travail, les sculpteurs d'aujourd'hui à la tronçonneuse qui vont nous faire des écureuils, des ours, etc., ou des dames avec un panier avec des champignons sur certains ronds-points vers Piégu et autres lieux. Non, c'est pas du figuratif. Il prend vraiment, là, j'ai devant les yeux un tronc d'arbre. Il l'a strié en diagonale et dans le sens de la hauteur. Ça devient très élégant. C'est-à-dire que quand je regarde les choses tout à l'heure, j'ai vu un ticket de métro qui est plié d'une certaine façon. Ce que je veux dire, c'est que votre papa avait une vision et dans ses mains, un art de comment dire, magnifier l'objet et de lui donner une seconde vie. De ce bois mort, il en tire le maximum. Vous voyez les totems de l'île de, enfin vous voyez les totems, oui, en Afrique ou ailleurs. Oui. Vous voyez les sculptures de l'île de Pâques. Eh bien, on a quelque chose dans cette idée-là, mais qui serait moins figurative. Et c'est toujours un travail de la matière avec beaucoup d'élégance. Et même là, j'ai une sculpture en acier en forme de X, mais elle est, j'allais dire, elle est légère. Alors, vous êtes en train de taper dessus. Voilà, c'est comme une grosse plaque de cheminée, hein. Mais on a un petit peu une idée, mais qui est toute travaillée. Et j'aime beaucoup la sculpture qui est devant moi en bois, qui est incroyable.
Et c'est toujours une seule pièce. Alors là, on a l'impression que c'est un peu des, comme vous disiez, un peu des poupées russes ou d'un billot de bois, on va dire presque de rebut, parce qu'il achetait son bois. Il prenait pas du bois pour faire des planches, il prenait des bois qui avaient des défauts. Et des défauts, il en faisait un travail de découpe, de couper dans le bois, dans la matière. Et ça, donc, c'était pour le bois, pour les aciers. Ben, c'est du pliage, tout simplement. C'est-à-dire qu'il là, il a pris deux plaques d'acier, qu'il a pliées, pop, 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 et ça fait une sculpture.
Oui, mais c'est
comment,
vrai.
Ça, on ne sait pas.
Alors ça, voilà, c'est ça, c'est l'art de votre papa, et puisqu'il avait dans la tête et sans doute dans le cœur, et qui était pour lui assez extraordinaire. On a des noms de l'exposition qui s'appelle Réversible, Platane. Hein, voilà, c'est du platane. Résurgence, c'est de l'acajou. Déplacement horizontal, c'est un platane, etc. Donc beaucoup d'acajou, de platane. On a plein de choses. La jambe, la spirale, la rencontre, la porte d'acajou, Renaissance. Et franchement, c'est vrai que faire une émission et ne pas pouvoir accéder à l'exposition, c'est un peu, paradoxal, mais c'est simplement que c'est cette rencontre que nous avons eue et que votre papa, et qu'on s'est dit que sans doute on pourrait admirer ses œuvres un jour prochain, mais ça vous nous le direz. On va peut-être passer dans l'autre salle. Donc
oui, juste avant, je voulais juste vous montrer les tapisseries, parce qu'il faisait aussi des tapisseries, et effectivement. Une amie m'a conseillé de mettre les tapisseries qui étaient à la maison dans le château. Et effectivement, quel meilleur endroit qu'un château pour mettre des tapisseries. Et ces tapisseries ont été faites d'après un dessin de mon père par ma grand-mère à Auperville, à Saint-Sandrin. Ça a été construit, ça a été fabriqué. C'est du point de croix, comme du canevas à l'ancienne, qui revient à la mode aujourd'hui. Et ça a été fait à Auperville pendant les soirées d'hiver.
D'accord. Bon, et alors.
Là, il y en a deux. Une qui m'appartenait, que j'ai eue. C'est le cadeau de ma grand-mère. Et ça, qui était à ma mère. Et également, qui sont également figuratifs.
Bien sûr. Alors, on va descendre quelques marches pour rentrer dans une autre salle assez particulière, parce qu'elle est pleine de miroirs avec des écrins. C'est pour faire des expositions de bijoux. Mais ça donne là aussi un bel ensemble pour exposer les œuvres beaucoup plus petites de votre papa. Je voudrais revenir à votre enfance. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous êtes né en 72, il commençait à être, j'allais dire, dans la gloire, enfin, connu et reconnu. Et donc, comment vous viviez avec cet homme, ça doit être assez particulier. Je ne sais pas comment vous pourriez le décrire. Et il y a évidemment l'homme de tous les jours et puis il y a l'artiste. Comment est-ce que tout ça, quand on en avait parlé il y a quelque temps, vous rappeliez qu'il y avait du bruit surtout.
Ah oui, il y avait du bruit. C'est-à-dire qu'il travaillait le bois à la tronçonneuse le dimanche matin à 8h. Les appareils à souder pour faire l'acier. Alors, il n'avait pas énormément d'outils. Pour le bois, il avait la tronçonneuse, et puis après, un palan pour les soulever, et puis des différentes cales pour travailler. Mais sinon, il travaillait principalement avec la tronçonneuse. Tronçonneuse qu'on trouve dans le commerce, hein, ni plus ni moins. Et pour l'acier, il travaillait avec le chalumeau et l'arc à souder, qui faisait un peu moins de bruit quand même.
Alors, une autre chose qui doit faire du bruit, il me semble avoir vu sur une photo où il est en short et en t-shirt avec un marteau-piqueur, il me semble.
Alors oui, c'est l'autre partie. Il a la photo qu'il y a sur le petit livret qui est distribué gratuitement lors de l'exposition. C'est du marbre de Carrare. C'est-à-dire que c'est le fameux marbre qu'on trouve en Italie. Et effectivement, il a eu la chance de pouvoir travailler à Carrare et faire des sculptures qu'on a vues en photo tout à l'heure, en marbre. Nous n'en avons pas, nous, la famille, mais je sais qu'il y a une œuvre en marbre qui est à Lille, chez des admirateurs de l'artiste. Voilà.
Et son rapport avec vous ?
Ah bah, le rapport, bah, c'est...
Sa femme, les enfants ?
C'est fils d'artiste.
Non, mais lui, au quotidien, après...
Un artiste n'a pas d'enfant, n'a pas de femme. il a des conquêtes et puis il a des marmots.
D'accord, d'accord. Et vous le suiviez un peu ou pas du tout ? Vous aviez conscience de ce que faisait votre papa ?
Non, pas du tout. Et même jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai 52 ans, j'ai pris conscience de sa portée internationale en faisant l'exposition ici où le retour des gens qui ne connaissaient pas forcément mon père m'ont dit « Mais attends, mais c'est fantastique ce qu'il faisait. » Pour moi, c'est naturel. C'est ça le truc, c'est quand on est fils d'eux, on ne se rend pas compte de son
père
ou de sa mère.
Oui, vous êtes né dedans.
Oui, je suis né dedans. Pour moi, c'est je l'ai presque même subi.
Oui, je comprends bien.
On subit le travail de l'artiste. Et ce qui fait que... Mais aujourd'hui, je commence à prendre conscience que, effectivement, bah, c'était quand même quelqu'un de talentueux.
Ah ben, bah, c'est plus que talentueux. Enfin,
Alors, au niveau famille, c'était pas ça.
C'est souvent ça, les artistes. Hein. Voilà. C'est pour ça que je vous posais un peu la question.
Eh ben, vous avez bien fait de la poser, mais effectivement, voilà, faut-il différencier l'homme de l'artiste ? Ça reste la question éternelle et le sujet de préoccupation.
Mais c'est bien parce que vous avez la transmission. Je me souviens d'une photo dans votre jardin lors de l'exposition des Portes ouvertes pour les Journées du patrimoine, où il y a votre fils Gaspard qui est photographié au pied d'une sculpture de son grand-père. Eh bien, lui, peut-être, va être plus conscient en grandissant, il a 10 ans, que effectivement, il appartient à une famille où il y avait un artiste assez incroyable et qui est dans le monde entier.
Il est petit-fils de... Voilà, c'est comme... Alors, je ne vais pas comparer mon père à Rodin ou à Picasso, mais les descendants de ces artistes ont plus conscience que les enfants eux-mêmes du talent ou de la portée médiatique et internationale de leur artiste.
Alors là, on est devant une vitrine où il y a des pliages de tickets de métro, de boîtes de Kodak, où il y avait des pellicules, pour ceux qui s'en souviennent. Et en dessous, une très, très belle sculpture en métal. Mais c'est, encore une fois, je ne peux pas l'expliquer. Il faut vraiment voir
les... C'est un pliage. Alors, pour les prototypes, les maquettes ou les sculptures, parce que ça reste des sculptures, ils travaillent n'importe quelle matière. Et effectivement, les artistes, il faut savoir qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont du mal à vivre de leur œuvre du vivant. Mon père, ça allait sur les...
Votre papa était quand même connu et reconnu.
Oui, ça allait quand même. Et effectivement, les pellicules photo, vu qu'il prenait en photo toutes les œuvres qu'il faisait, il jetait rien. Donc, il utilisait la boîte et il faisait un pliage. Et vraiment, avec une certaine harmonie. Et pour avoir eu la visite d'architectes qui sont venus voir l'exposition, ils m'ont dit « c'est un travail fantastique ». Et moi, je dis « j'ai jamais réussi, même avec un ticket de métro, à reproduire les formes qu'ils faisaient ». Ils me disent « ça ne m'étonne pas ».
Non, mais c'est vrai.
Et je voulais vous faire remarquer ce qu'il utilisait également.
Un paquet de gauloises.
Mais regardez bien le paquet de gauloises.
Fumez-tu.
Non, il n'y avait pas marqué « fumez-tu » dessus, il y avait marqué…
Je n'arrive pas à voir. Au cola, je ne sais pas, c'est ça que vous...
Chocolat.
Ah, chocolat.
C'est mon paquet de cigarettes au chocolat, mon paquet de gauloises.
D'accord, l'imitation de paquet de gauloises avec des cigarettes en chocolat.
Qu'on avait dans les années 70-80, qui sont strictement interdites aujourd'hui et qui feraient un grand scandale. Oh, il doit y avoir des pays dans le monde où il y a encore des cigarettes en chocolat. Et effectivement, il a utilisé mon paquet de cigarettes.
Il vous a
chocolat.
Pris votre paquet, ben vous aviez mangé les cigarettes.
Bah, évidemment, et vous voyez que pareil, en maquette, on voit les prototypes de Mexico.
Absolument.
Voilà.
Et je suis très ému, en fait, de voir ça.
Et parce des que bijoux, il faisait aussi des bijoux. C'est... Parce qu'effectivement, avec sa famille, mais avec ses femmes, il leur faisait des beaux bijoux.
Bien sûr.
Et vous voyez des bijoux faits avec du laiton, du cuir... La structure. On continue ?
Oui, on continue. Mais,
là, c'est les sculptures de Séoul, et effectivement. On voit le travail en amont des...
Alors ça, c'est une maquette qui est en métal,
oui.
Qui est une miniature de ce qui est aujourd'hui installé à Séoul. Et vous avez toute une galerie de photos lorsqu'on va jusqu'au fond de l'exposition, où on voit évidemment toutes ces photos. Mexico 68, il y en a en Hongrie...
Oui, il a beaucoup travaillé le bois dans les pays de l'Est dans les années 70-80, où ils lui ont ouvert les portes et leurs forêts en Hongrie pour pouvoir travailler le bois comme ici. Il a fait également Los Angeles pour l'indépendance, le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Il est vieux, mais pas,
pas jusque sous Louis XVI.
Seattle, la Hongrie, l'ex-Yougoslavie, l'Autriche, et effectivement Séoul dans les années 80. Et puis après, les années 90, c'est là où on a retrouvé le plus d'œuvres, on va dire, publiques, parce qu'il a rencontré Gérard Guerra, qui est un grand, on va dire, agent artistique, amateur d'art, et qui a écrit beaucoup de livres, et qui a organisé des symposiums avec un groupe d'une quinzaine, vingtaine de sculpteurs différents. Et tous les ans, ils faisaient un symposium. Alors, il y a Oloron-Sainte-Marie, qui se trouve près de Pau, pas loin d'ici. Il y a Landor, où il a fait les structures autogénératrices et qui ont fait l'objet d'un timbre. Il a eu un timbre de son vivant, de ses œuvres. En Grèce, où il a travaillé le marbre, à Porto Rico, l'acier Corten, à Wicklow, en Écosse, en Irlande, avec un tronc d'arbre évidé, ou toujours de la même façon, qui existe encore. Je ne l'ai pas retrouvé parce qu'il n'y a pas Google Earth, mais je ne désespère pas. Santo Tirso en Portugal, au marbre. Madrid avec des magnifiques sculptures.
C'est superbe à Madrid aussi, hein, en Corten.
En Corten, où elles sont gigantesques. Et 14 mètres de long et trois œuvres disposées côte à côte avec une pile en béton où ça fait plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Peut-être, je suis un peu marseillais. Le Lamantin en Guadeloupe, en bois, qui a été détruite par les différents ouragans. Une magnifique œuvre à Quito qui se trouve à l'avenue de Simon Bolivar. Toujours, et que j'ai eu énormément de mal à trouver cette sculpture, parce que je cherchais dans le parc où il y avait toutes les autres sculptures, mais non, elle était à l'entrée du parc, parce qu'il voulait qu'elle soit pas
on
fermée.
On ne paye pas pour voir ses œuvres, voilà, j'ai bien compris. Et puis on en a une à Clermont-Ferrand, parce que sinon la France, on ne sait pas où le voir, mais enfin il y en a une. Hein.
Clermont-Ferrand, Oloron-Sainte-Marie, Landor, c'est les trois plus près d'ici.
Bien.
Et puis Madrid, après, un peu plus loin.
Là, une pierre sculptée, on passe devant une petite vitrine, une pierre sculptée.
Ah non, c'est pas une pierre,
c'est quoi ?
C'est du marbre.
Et c'est du marbre qu'il a taillé, mais brut.
Du marbre brut, et c'est pas sculpté, c'est taillé. C'est-à-dire qu'il a... Alors, je sais pas avec quel outil...
D'accord. Et alors, on poursuit l'exposition. Oui. Mais bon, alors maintenant, je voudrais vous dire, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on a beaucoup parlé de votre papa, de ses œuvres, etc. Donc, Georges Dubon, allez voir sur Internet. Je pense que certains d'entre vous, certaines connaîtront ça. Là, on est derrière Basile, joue avec une des sculptures de son père, qui est à notre hauteur humaine, un peu plus haute, et qui est complètement évidée. Donc, on est d'un côté. Et moi, je suis de l'autre côté du tronc. Voilà, on va se parler là, on va terminer là. On a une seconde pour dire qu'est-ce que vous pensez que ça va devenir, tout ça ?
Eh bien, il y a une vente aux enchères à Drouot qui aura lieu le 21 novembre prochain. Ça, c'est le hasard de cette exposition.
Mais les œuvres qui ne seront pas vendues, est-ce qu'on pourra les voir en exposition comme aujourd'hui, quelque part ?
Je vais voir, parce que cet hiver, je crois que jusqu'à janvier, il ne se passe pas grand-chose au château de Montbron. Je vais voir si on peut laisser quelques œuvres...
Bon, on verra. Merci. En tout cas, merci Basile de nous avoir présenté votre papa et puis avoir fait, aujourd'hui un focus sur ses œuvres. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission dans le direct de chez vous.